Section 5, speed her up, 4-1.
Ma montre! On m'a volé ma montre!
Hat's das Kind, Kind war?
Ça va durer combien de temps?
Ma montre en or!
Quand a commencé le temps? Et où finit l'espace?
Hat's das Kind, Kind war? Wusste es nicht, dass es Kind war?
Et si on arrêtait tout?
Temps de pause.
Quelle heure est-il?
Je n'ai pas de montre.
Anne Mathéus,
en compagnie d'Antoine Lobin.
Eh bien voilà, on est deux dans une bulle.
Et je vous souhaite la bienvenue dans cette bulle, première bulle de l'année pour ma part. Alors je vous souhaite une excellente année 2015, pleine de découvertes en tout genre. Aujourd'hui, nous naviguerons entre théâtre et littérature, puisque nous recevons un metteur en scène qui dialogue avec un écrivain. Antoine Lobin, notre invité, s'est passionné depuis un certain nombre d'années pour l'écriture de Patrick de Clercq, avec Les Naufragés d'abord, qui lui a inspiré un spectacle sur la figure du clochard, c'était dehors, et c'était en 2012. 2012, justement, l'année de parution du dernier ouvrage en date de Patrick de Clercq, Démon me turlupinant, chez Gallimard, un titre que beaucoup d'entre nous ont en tête, puisque ce livre a reçu le prix Rossel en 2012. Et c'est un nouveau coup de foudre pour Antoine Lobin, qui, avec son complice dramaturge Thomas Deprez, présente depuis hier soir un spectacle au rideau, sous le même titre que le livre dont il est tiré, et pour cause, c'est vraiment du de Clercq tel qu'en lui-même qui est présenté à la scène. Toute la puissance du texte et de la langue nous explose à la figure. Peut-on même parler d'une adaptation, sauf le parti de dialoguer le puzzle des chapitres, rebondissant entre les deux comédiens sur scène, Brice Morial et Hervé Piron. Un sentiment comme de chevaucher ce texte accru, encore renforcé par la lecture sans phare d'un long chapitre du roman. Mais s'agit-il d'un roman ? Je crois que c'est une question qu'on va aborder dans cet entretien. Patrick de Clercq nous dit, lui, que si c'est un roman, alors seule la psychanalyse en est l'héroïne et la profonde trame. Démon me turlupinant. Alors il y a un moi dans ce titre, et le moi, eh bien, c'est celui de l'auteur, de Patrick de Clercq, dont il faut rappeler qu'il est aussi anthropologue et psychanalyste. Antoine Lobin, bonjour.
Bonjour Anne.
Ravi de nous rejoindre après cette première hier soir. Un spectacle assez long, il faut le dire, hein. On lit ce livre avec vous presque de bout en bout, vous avez fait des choix évidemment, et alors Patrick de Clercq, c'est quelqu'un vraiment qui vous marque, qui vous suit, qui vous turlupine, on peut dire, c'est un démon.
Oui, ça l'est, complètement. Oui, je pense que le théâtre c'est un art de la confrontation. Donc, pour qu'il y ait quelque chose d'un peu intéressant qui se passe, il faut se confronter à quelque chose qui nous fait violence. Et Patrick de Clercq me fait violence. Ça fait 10 ans que ces textes me bousculent, me heurtent, et ces bousculements que j'essaye de partager en retour avec les spectateurs.
Votre première rencontre avec ces écrits?
Alors, c'était ma première rencontre avec ses écrits, c'était au tout début du travail sur Dehors, donc le spectacle qu'on a réalisé sur les clochards, mais qui est un spectacle qu'on a mis 7 ans à développer. Donc, on avait la chance d'être en résidence à L'Aile, donc qui est un lieu de recherche et d'accompagnement pour la jeune création à Bruxelles. Et on voulait, Thomas et moi, travailler autour de la figure du clochard, et on cherchait un point d'accroche pour démarrer une recherche de plateau avec un groupe de 6 acteurs. Et on a lu beaucoup de choses, des ouvrages littéraires, des rapports de services sociaux, toute la littérature qu'on a pu trouver sur le sujet, et on a découvert les bouquins de Patrick de Clercq comme ça, donc en 2005, il y a juste 10 ans, début 2005. Les Naufragés, puisque Le Sang Nouveau est arrivé, n'était pas encore publié à l'époque, il allait l'être quelques mois plus tard. Et ça a été un choc, ça a été un vrai choc qui a permis la mise au travail. C'est-à-dire que là, on avait vraiment un point d'achoppement à partir duquel tenter de se positionner, à partir duquel tenter de faire émerger une théâtralité. Voilà. C'était un choc parce que de Clercq est, à mon sens, un des auteurs en activité le plus attaché à l'idée de lucidité, le plus attaché à l'idée d'écrire le monde sans phare. Ce qui génère une très grande désillusion chez lui et chez le lecteur qu'il découvre, mais en même temps de cette désillusion et le fait qu'il croit finalement pratiquement en rien, en tout cas certainement pas en l'humanité, génère paradoxalement un rapport au vivant sous toutes ses formes extrêmement émouvant, extrêmement fort, une capacité d'empathie quasiment surhumaine qui n'en finit pas de me toucher. Voilà. Et elle s'exerce dans ses ouvrages à dimension plus scientifique quand il s'intéresse à la figure du clochard avec une approche anthropologique, mais elle s'exerce pour moi de la même manière quand il aborde de la littérature pure, entre guillemets, comme c'est le cas dans Des Bombes Me Tuent Lupinant, et quand il essaye de raconter son parcours au travers de son parcours psychanalytique. Même si, par rapport à la citation que vous avez faite en début d'émission, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec le fait que la psychanalyse soit le personnage central ni du livre, ni du spectacle qu'on en a tiré.
Bon, on va en parler de tout cela. Alors le titre « Démon me turlupinant », c'est, il faut le dire, c'est le titre d'une œuvre de James Ensor. Alors nous allons rentrer dans cette émission, figurez-vous, avec la voix de James Ensor. Je ne sais pas si vous connaissez ce magnifique document. 1929, il fait un discours à l'occasion d'une grande exposition rétrospective de son œuvre au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Donc on va écouter ça, ce sera notre paysage sonore pour entrer dans l'émission. Mais je ne dois pas vous oublier de vous confier une mission, comme à tous nos invités, d'entendre pause. Le Polaroid qui est là sur la table, il est pour vous et je vous invite à nous laisser une trace de votre passage parmi nous au travers de ce Pola. On écoute donc James Ensor, étonnant discours. Le son est un peu crachotant. Écoutez bien, vraiment, il faut en saisir toute la saveur.
Chers amis, abreuvés de délices, bourrés d'enthousiasme, voyés de joie, gavés de réconfort, aveuglés par vos lumières, assourdis par vos appels, stimulés par vos éloges, farcis de vos vitamines, soulevés de mon siège, balancé sur ma chaise, je renacle et caracole tel vieux coursier ruant et palpitant en mal de stabilité. Ah, la vie n'est qu'une palpitation, et l'histoire d'Icelle fut l'histoire de ma peinture. En broyant du noir, j'ai vu surtout du rose. Vision irisée des peintres de l'espace, vision de Narcisse malmenée par Pluton. Vie simple, uniforme de bon ton, dit-on, mais emplis des couleurs vives et tendres, vomis par les poissons nacrés, pêchés dans les eaux vives de Phnosie, par les pêcheuses de Narquoisie. Le beau rêve phosphoré, finir en beauté tendrement enlacé par pieuvres passionnées, couché parmi les moules parqués d'Ostende et les sirènes bavardes, je m'offrirai aux baisers avides des jolies bêtes, des eaux, du ciel, de la terre et de la mer. Et vous, amis sculpteurs si présents, saurez-vous mouler mon masque décomposé, déformé par la lumière, anobli par les eaux? Mes chers amis, il faut louer le courage périmé, les grandes œuvres de lutte des confrères disparus. Et quand les lucioles, claires porteuses de lumière, s'abîment tristement dans les marais fangeux, il faut louer sans cesse, en tout sens, en tout lieu, le sourire lumineux, le sourire éternel des bons maîtres du passé. Aux temps enténébrés de mes débuts, au cercle de la chrysalide, à l'essor, cercle peureux, puis au vin et à la libre esthétique, milieu glorieux, crachant feu et flamme, quand sonnaient et fusaient les francs rires des imbéciles, les sourires des érudits, les soupirs cruels de vieux critiques, les longs outrages, les incompréhensions tenaces, les cris d'horreur des bécasses, les brimades, les pluies de pain et d'oignons, quand les esthètes exaspérés échangeaient force Orion. Après vinrent pour me penser les vierges consolatrices, les dames en détresse, les bas-bleus isabellés, les servantes à courte portant haut leurs tinées retroussées. Puis le malheur des pouilleux indisposés, des poissardes mélancoliques, des masques scandalisés et singuliers, les douleurs des Christ tourmentés me dirent bien des choses. Et maintenant, c'est le grand contraste, l'époque dite des libertés, des licences, du bon accueil aux chercheurs, des banquets et des fleurs sans bouquet, des cuisiniers dangereux, des vivisecteurs impunis, des destructeurs de sites, des ratiboiseurs de nos bois précieux, des violeurs de nos dunes sauvages, des combleurs de nos bassins prestigieux, des vandales effrontés, des architectes cubiques aux derrières croulants mal bétonnés, des médicastres aux moelles de Wistiti, des censeurs pudiques verbalisants, encore des gabelous farfouilleurs, un index érectile, osent griffer les pages libres et humaines de nos grands artistes. Mais tout de même, là-bas au loin, cachés en des coins, arpentant des plaines, des chercheurs méconnus, jeunes et vieux veillent. Certains chancellent. Ils vous appellent. Oui, des travailleurs masqués, broient des couleurs d'aurore, affinent des pourpres nouvelles, polissent et repolissent des marbres et des bronzes, forgent des tableaux, pétrissent des gaz, taillent des pierres précieuses pour orner le berceau des hommes de demain. Et des braves enfants cueillent pieusement des roses pour parer les dames de leurs pensées et ceinturer leurs compagnes humanisées. Il faut les aimer, les appeler, les protéger. Ils seront purs et sensibles. Ils aimeront les bêtes, toujours belles et bonnes. Ils seront grands, ils seront beaux, en survolant les terres promises. Petit prophète repu et sans loi, petit père, mécènes endoloris, sans foi, et vous, novateurs, sans toi, attendons les messies tant désirés, les messies des formes pures, des couleurs fluides, des couleurs des rêves, des sens, de la vie enfin. Chers amis, belles amies ou ennemis, levons nos verres à ceux qui s'en vont, tendons nos verres à ceux qui viendront, vidons nos verres à ceux du présent et saluons la vie des êtres et des choses, la vie impérissable, la vie infinie. Chers masques et amis, un dernier mot pour Monsieur Max, bourgmestre maternel de notre grand Bruxelles du présent, de notre magnifique Bruxelles du passé, du Bruxelles joie de mes parents, mon père est né chez vous en 1835. Je revois mes amis de 1880, l'époque ardente des luttes pour l'art. Ils sont morts, les amis de joie et d'ivresse, tous purs bruxellois et premiers défenseurs. Edmond Picard, Mauss, Waller, de Modère, Ferrarn, Agi Wauters, Le Monnier, Écoute, de Holleville, mes fiches de consolation, nous avons Sander Pierron, le bon ami de Neptune, l'explorateur canalisé des plates-côtes de Molenbeek, des bas-fonds d'Ixelles, des rives de Malbec, d'Eterbeek et de Marollebeek. J'entrevois parmi vous sous des masques d'interrogateurs ou des loups noirs, Charles Bernard aux dents longues, Druder, chaud d'esprit et de cœur, Solvay, porte en haut et ferme, le pavillon respectable de l'art cher aux petits bourgeois bruxellois. Et maintenant, je veux songer à Manucupis, le plus ancien bourgeois bruxellois, le roi de vos fêtes, l'animateur intarissable des esprits brabançons, l'arroseur acide, caustique, effervescent. Mesdames, messieurs, masques, ministres et bourgmestres, critiques sévères et autres, je vous adresse une prière. Je vous demande pour Manucupis un costume de peintre. Ah, qu'il serait beau votre enfant portant la blouse bigarrée, le feutre en bataille panaché de nos peintres. Il fut sans culotte, grognard, bourgeois citoyen, garde civique, fonctionnaire breveté, archer médaillé, pêcheur, Gilles, défenseur de la chose publique, de la République, de la Constitution. Il fut libéral, catholique, socialiste, franc-maçon, anglais, français, américain, international, amiral, général, caporal. Qu'il soit peintre enfin, et tous nous applaudirons. Vive Manucupis, le baron cracheur, la mascotte des francs peintres, le dieu mignon habillé par nos sœurs, l'emblème viril de nos garçons. Qu'il soit peintre enfin, et vive Monsieur Max, son parrain sympathique.
Jim Sansor, en 1929, discours à l'occasion de l'exposition rétrospective au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. C'est un peu long, mais vous n'avez pas peur de la longueur, c'est Antoine vrai. Lobin. Et c'est remarquable.
Oui, merci beaucoup pour ce très beau cadeau. Oui, c'est émouvant, évidemment. Donc, on sort être très présent dans le bouquin de Claire, qui est très présent aussi dans le spectacle, même s'il ne faut pas trop en parler de ça. J'invite tout le monde, avant ou après avoir lu le livre ou avoir vu le spectacle, de se rendre au musée Fin de siècle, ici à Bruxelles, où il y a des chefs-d'œuvre absolus d'Ansor qui sont conservés, notamment un portrait du père de l'artiste qui est sublimissime. Voilà, les Ansor sont très bien exposés, en plus, au musée Fin de siècle. On a de la chance d'avoir ça dans notre ville, donc... J'encourage tout le monde à y aller.
Oui, et puis il y avait comme un air de changement à ce propos. Mais bon, c'est une autre histoire.
Non, mais c'est bien pour ça que j'encourage les gens à y aller. C'est alors, connaissance de cause.
Antoine Lobin, donc Jim Sansor, peintre belge, on l'a entendu, très attaché à Bruxelles, à son Manneken-Pis notamment, hein, ici, bel éloge. Et Bruxelles, c'est une ville avec laquelle Patrick de Clercq entretient pardon, une relation un peu compliquée, cette relation aux origines, en fait. C'est peut-être ça le véritable sujet de son livre.
Ah, alors ça c'est deux choses. J'étais très d'accord avec la première partie de votre intervention, moins avec la fin. Alors, je réponds sur le sujet ou bien sur la place de Bruxelles?
Peut-être la place de Bruxelles, et puis on va entendre aussi Patrick de Clercq en parler dans un instant.
Oui, non, je pense que vous avez raison, que c'est pas Bruxelles en tant que telle qui pose problème, c'est la ville des origines qui pose problème. J'entretiens des rapports un peu similaires avec ma ville d'origine, qui n'est pas Bruxelles. Et je comprends très bien la manière dont il parle de la laideur de Bruxelles, de son côté poussiéreux et un peu glauque, en fait, hein, dans la manière dont il en parle. Mais je pense qu'il ne décrit pas Bruxelles de manière objective et absolue. Il décrit la ville de son enfance. Et je pense que c'est très fréquent qu'on entretienne des rapports un peu complexes avec la ville de son enfance. Et c'est complètement dans la lignée très édipienne du spectacle, ce dont on hérite, qu'on n'a pas choisi, qui exerce une influence très forte sur les premières années, est ici rejeté. Voilà.
Eh bien, voici Patrick de Clercq, qu'on a pu entendre dans le Charivari, puisqu'on a profité de l'occasion du spectacle au Rideau pour faire réentendre cette rencontre précisément autour de ce livre, Démons me turlupinant. Il y a donc Bruxelles, mais bien d'autres choses qui le turlupinent.
Ce que je raconte sur Bruxelles et sur ma détestation réelle de Bruxelles et de cette enfance avec une grand-mère dont je parle qui valait quand même le détour, qui était assez du côté Lady Macbeth, était laissé quand même rêveur. Bon, il est vrai que j'ai gardé un rapport assez névrotique à Bruxelles et à mes origines, avec effectivement, comme mon père, l'envie de foutre le camp, ça c'est sûr. C'était aussi un milieu là qui était presque illettré. Ma grand-mère qui avait travaillé à 12 ans, ce sont des gens qui s'étaient hissés jusqu'à vraiment la micro-bourgeoisie. Je me suis rendu compte très tôt que d'abord ils parlaient très mal et qu'il y avait vraiment des pièges culturel qu'il fallait éviter. C'est des gens qui parlaient un mélange de sabir, de flamand approximatif, d'argot bruxellois et de français extrêmement léger. Je savais qu'il fallait parler autrement. Qu'il fallait lire. Ces gens qui n'avaient pas de livres. Mon père, lui, avait des livres. Mon père, lui, se protégeait par les livres. C'est un homme de grande culture et qui lui-même voulait échapper à cette déterminité sociale et culturelle. Au fond, ce livre que j'ai écrit, le sous-titre aurait très bien été Introduction à la psychanalyse. Ce qui rend évidemment tout le monde fou, éditeur, libraire, etc., parce qu'on ne sait plus où mettre le livre. Donc, bon. Mais pour moi, c'est une sorte d'introduction à la psychanalyse. C'est-à-dire que j'ai raconté des morceaux de ma vie qui en soi sont parfaitement inintéressants, mais pour illustrer ce que c'est que l'inconscience, ce que c'est que l'Oedipe, ce que c'est que l'inhibition. J'ai souffert pendant 20 ans d'une inhibition à l'écriture colossale, dont le monde de l'art aurait peut-être pu souhaiter qu'il continue, mais enfin, j'en suis néanmoins guéri, et donc maintenant j'écris comme je peux.
Patrick de Clercq en 2012 au micro de Pascal Seyss dans Le Grand Charivari. Alors il y revient encore et encore, c'est la psychanalyse qui pour lui est au cœur de ce roman, de ce livre. Et votre version à vous alors, Antoine Laubin?
Alors je ne nie pas du tout que la psychanalyse est très très présente dans le livre, hein, et on en parle aussi beaucoup dans le spectacle, on essaye d'en métaphoriser certains aspects par notre dispositif scénique, donc évidemment que c'est un des sujets centraux du bouquin, je ne dis pas du tout le contraire, mais au-delà de ça, comme il le dit très bien dans ce qu'on vient d'entendre, je pense qu'il est davantage question, au-delà de la fable personnelle, de la trajectoire personnelle qui, comme il le dit, est anecdotique, enfin, ça aurait pu être une autre que celle-là, au-delà de ça, je pense qu'il y a une exhortation très très forte à la prise de recul, à la prise de distance, à la rationalité, hein, l'usage de la raison au sens philosophique du logos, et finalement au courage et au dépassement de soi. Voilà. Et ça, je pense que c'est une réflexion qui peut être investie dans des champs qui dépassent très largement la psychanalyse. Voilà, je pense que nos responsables politiques d'aujourd'hui ou d'hier feraient bien d'entendre ça. Je pense que la société dans son ensemble pourrait s'inspirer de ce type de réflexion autour de l'audace, du courage, du fait de se surmonter. Voilà.
Antoine Loubin, Patrick de Clercq parle du sabir, parlé par sa famille, les membres de sa famille. Et lui aussi a une langue, finalement, qui est très particulière, pas très littéraire, on pourrait dire. Une langue qui est une langue qui se prête au théâtre, précisément.
Ah, moi, je la trouve très littéraire.
Oui.
C'est vrai, vous trouvez qu'elle n'est pas très littéraire?
En tout cas, il y a beaucoup de gros mots. Alors, ça frappe évidemment. Oui. Donc, il y a un côté quand même. Il y va, quoi. Il y a un côté parlé.
Il a une maîtrise de la syntaxe qui est quand même assez remarquable. D'accord. Il a des phrases très, très construites, souvent très longues, parfois très courtes aussi, mais il y a une rythmique qui s'installe. Donc, oui, moi, je pense qu'elle se prête bien au théâtre. Après, ça dépend ce qu'on entend par théâtre, mais partant du principe que. On envoie des signes à des spectateurs, on partage un moment ensemble et ça construit quelque chose, ça construit un moment partagé. Oui, c'est cette langue-là, cette rythmique-là, se met très bien en bouche, on va dire. Voilà. Mais je pense qu'il y a une dimension littéraire vraiment, vraiment forte, littéraire au sens de la forme participe... la construction stylistique, la forme participe pleinement au propos, complexifiant le propos, le densifiant, je pense qu'il fait rire, qu'il émeut, par la forme. Oui. Alors évidemment par ce qu'il raconte, mais il ne laisse pas du tout la forme au hasard. En ça, pour moi, c'est vraiment un grand auteur, vraiment.
Eh bien, je vous propose peut-être une petite lecture, précisément. Alors... il y a des lecteurs dans votre dramaturgie. Vous avez choisi de faire lire un long chapitre du livre.
Oui.
Et ça installe tout de suite un rapport au texte qui est très, très proche. Ça installe le spectateur, finalement, dans un rapport direct avec le livre, l'ouvrage. Ouais.
Oui, non, mais j'avais très envie de montrer un homme qui lit. Voilà. Je fais aussi ce spectacle comme... c'est difficile de dire ça sans user d'une prétention un peu ridicule, donc je m'en excuse, ce spectacle est aussi une espèce de réponse au discours artistique dominant, un peu prémâché, un peu facile, un peu moi je suis souvent un peu désespéré, et pardon si c'est un peu présomptueux, face à la médiocrité de la production artistique dominante, par ce qui est consommé comme divertissement. Donc remontrer la relation de l'individu à la littérature, mais plus largement à la création, et redire l'impact que peut avoir la création dans la vie de l'individu. C'est aussi ce que de Clercq décrit quand il raconte comment on sort à 9 ans, a déboulé dans sa vie et lui a ouvert des portes de l'imaginaire, la sortie du bourbier de son enfance et de la médiocrité de son environnement immédiat. Je tenais à ce que le spectacle s'ouvre par cette relation que peut avoir l'individu à la chose artistique. Et donc il fallait que ce soit un vrai temps entre un spectateur pris dans la salle. Bon, ils ne sont pas tout à fait pris au hasard. On a demandé à 17 amis de nous rejoindre. Donc c'est quelqu'un de différent chaque soir qui vient au Rideau de Bruxelles faire cette lecture introductive. Mais voilà, ce qu'on voulait montrer, c'est un homme qui lit. Et j'étais très heureux parce que hier à la première, plusieurs personnes sont venues me dire que ça leur donnait très envie de lire et qu'ils allaient retourner vite chez eux, continuer leur bouquin ou en entamer un nouveau. J'étais très content de ça hier soir.
Donc c'était Frédéric Dussen qui lisait ce chapitre.
Ce sera Philippe Grand-Henri qui nous rejoint.
D'accord, ouais. C'est toujours le même chapitre puisque...
Oui, c'est toujours le chapitre 24.
Ça donne du sens effectivement à la manière dont vous avez dédoublé le personnage de Patrick de Clercq. Mais donc une petite lecture, alors pour ne rien dévoiler, je vous propose de lire la quatrième de couverture pour entrer comme on entre d'habitude dans un livre.
D'accord.
Qui est signé Patrick de Clercq.
Oui, c'est Patrick de Clercq qui signe la quatrième de couverture du roman. Enfance bruxelloise, l'école où, catatonique d'ennui, je regardais par la fenêtre la pluie tomber, week-end à Ostende avec l'ombre d'en sort toute proche, ma grand-mère était folle, hystérique façon Charcot. Mon tonton, lui, donnait plutôt dans le légèrement psychopathique. Et mon père était prêt à partir n'importe où. Argentine, Amérique, n'importe où du moment que c'était loin. Foutons le camp, qui disait. Tout ce petit monde n'allait pas très bien. Notre médecin de famille était psychiatre, c'est dire. Alors moi, à force, je suis d'abord devenu névrosé, et ensuite, bien plus tard, analyste. Et entre-temps, à l'adolescence fraîche et joyeuse comme la guerre du même nom, j'ai tenté de rejoindre les Tupamaros en Uruguay. J'ai fini sous une tente, dans la montagne, du côté de Briançon. Enfin, pour faire injure au temps qui passe et vaincre mes obsessionnelles inhibitions, après mon analyse et grâce à elle, je me suis forcé à écrire. À écrire malgré tout. Un roman, oui, si l'on veut, mais un roman dont seule la psychanalyse serait alors l'héroïne et la profonde trame.
Nous y revoilà. Nous y revoilà. Antoine Laubin, un choix musical avant de poursuivre notre conversation. Alors, je vous propose soit Jocaste, Oedipe, soit Peer Gynt.
Ah, c'est très bien tous les deux. Bah, disons que Jocaste est plus proche de notre spectacle, même si j'aime beaucoup, beaucoup Peer Gynt aussi. Mais on va choisir Jocaste quand même.
Extrait d'Oedipus Rex d'Igor Stravinsky. Jocaste était Anne-Sophie von Otter et Vincent Cole était Oedipe. Moment crucial, évidemment, celui où petit à petit les acteurs réalisent dans quoi il joue. Vous connaissez cette musique, Antoine Loubin?
C'est l'extrait qu'on vient d'entendre, non, je ne connaissais pas.
Ben voilà.
J'ai découvert avec plaisir.
On vous a fait découvrir cela.
Temps de pause.
Qui était votre mère? Quel enfant étiez-vous? Je n'en sais rien, mais voyons vos souvenirs. Que vous faut-il donc faire? Des études, devenir artiste, choisir telle ou telle profession, vous marier ou non, faire ou non des enfants? Je l'ignore, mais vous-même, qu'en pensez-vous? Au fond de toutes ces alternatives, laquelle préférez-vous? Attention, non pas ce que votre mère ou votre père auraient désiré, non pas eux, mais vous. Et non pas ce que vous, pour l'image de vous-même, pour votre plus belle apparence, pour apaiser votre superficialité ou calmer vos angoisses, souhaiteriez et désirez. Non, rien de tout cela. Mais, véritablement, que voulez-vous, vous? Au plus profond accessible de vous-même, que désirez-vous? Que vous faut-il à vous-même pour être vous-même?
Petite bouffée de musique de Jean-Sébastien Bach qu'on entendra plus longuement tout à l'heure. Et puis, c'est le trailer du spectacle, hein, parce qu'aujourd'hui, au théâtre, comme au cinéma, on a des trailers avec un extrait, effectivement, du spectacle, qui n'est pas, à proprement parler, Antoine Loubin, le texte de Patrick Declercq, là, ou si...
Ah si, on n'a rien réécrit du tout. On a coupé, beaucoup, parce que sinon le spectacle durerait 8 heures, mais on n'a rien réécrit. Donc notre travail d'adaptation avec Thomas a consisté à couper, coller, répartir entre les bouches des deux acteurs, mais rien n'a été reformulé.
Il y a quand même une scène, effectivement, où les deux acteurs méditent sur Édipe,
ah, oui,
précisément.
Il y a des scènes d'impro, oui. Effectivement, il y a plusieurs scènes... Il y a plusieurs moments informels dans le spectacle où les acteurs échangent. Et là, effectivement, c'est pas le texte de Declercq, mais c'est pas le mien non plus. On est venu avec un canevas et avec un enchaînement d'idées, mais les acteurs le gèrent de manière complètement libre dans le temps de la représentation. Donc voilà, dans ce qui est littéraire dans le spectacle, là, c'est du 100% Declercq et rien n'a été réécrit. Par contre, effectivement, il y a des passages non littéraires dans le spectacle.
Alors oui, c'est un procédé tout à fait différent de dehors, hein, pour revenir à cet autre texte de Patrick Declercq que vous avez travaillé. Là, il y avait une prise de distance énorme par rapport au texte. Vous avez dit cette année de travail et donc vraiment un recul terrible.
Dans dehors, il n'y avait pas de texte de Declercq. Tout notre travail était basé sur son travail scientifique, c'est-à-dire qu'on a vraiment construit le spectacle sur base de sa réflexion, mais il n'y avait pas de texte de Declercq prononcé dans le spectacle. C'est Thomas Depreil qui a écrit l'ensemble des textes de dehors, et il y avait aussi plusieurs scènes improvisées chaque soir dans dehors. Ici, effectivement, c'est le contraire. On a adapté le roman de Declercq en ne le réécrivant pas. Donc notre adaptation, comme je l'ai dit, consistait à couper et à réassembler.
Et alors cette fidélité au texte, c'est quelque chose qui s'imposait tellement vous vouliez faire entendre cette langue. Quelles ont été les idées dramaturgiques qui ont présidé finalement à ce spectacle?
Elles sont nombreuses. Moi, je ne définirais pas mon rapport au texte comme fidèle. Je crois que je suis respectueux du texte, ça oui, et très admiratif, donc j'essaye de baser mon travail vraiment dans le respect, dans la mise en valeur du texte. Mais je n'aime pas cette idée que la mise en scène doit sacraliser le texte à tout prix. Je disais en ouverture que la confrontation au théâtre était quelque chose d'important. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'entrevois. Je pense que ce qui est intéressant pour le spectateur, ou en tout cas moi, c'est comme ça que je fonctionne en tant que spectateur, c'est quand le geste de mise en scène entre en réaction avec le sujet ou la matière littéraire sur laquelle il se base et qu'il y ait des chocs qui se produisent. C'est-à-dire que de la rencontre des deux, de nouveaux signes apparaissent pour le spectateur. Voilà, donc dans la feuille de salle du spectacle, j'ai demandé qu'on insère un extrait d'un texte de Jean-Marie Piem qui date de 1993, qui s'appelle « Davantage de bonnes trahisons », où il explique ce que je viens de dire là. C'est-à-dire que lui, en tant qu'auteur, encourage les metteurs en scène à bien le trahir. Voilà, donc pour faire naître un nouveau sens. C'est-à-dire que le boulot de l'auteur, c'est d'écrire, le boulot du metteur en scène, c'est de gérer le temps de la représentation. Et donc, ça n'est pas... Enfin, si j'avais voulu juste communiquer le texte, j'aurais offert le bouquin. Voilà, là j'essaye quand même de faire un peu plus que juste communiquer le texte.
Tout à fait. Jean-Marie Pem qui dit aussi que le théâtre, c'est interroger sans relâche l'identité. Et c'est là-dessus que vous travaillez, évidemment, avec ce texte. Hein.
Oui, c'est ce qu'on essaye de faire.
Et ça passe beaucoup à travers le livre, puisque la psychanalyse a été le point de départ de l'écriture pour Patrick de Clercq. L'un des axes que vous avez choisi de mettre en évidence, c'est justement ce rapport au livre qui est omniprésent, on ne va pas en dire plus, sur la scène et qui sert vraiment d'accessoire, de décor, de sujet à tous les étages.
Oui, sans trop dévoiler, on peut dire que la scénographie du spectacle qui a été conçue avec Stéphane Arcas est composé de 5000 livres. Et 5000 livres, ça fait beaucoup.
Et puis les acteurs, ce ne sont pas des personnages, au sens où ils n'endossent pas des personnalités. Ils sont là comme narrateurs, finalement. Oui, ils s'adressent directement au public.
Oui. Mais c'est devenu, sans que ce soit vraiment une prise de décision consciente, mais c'est devenu une espèce de marque de fabrique des spectacles qu'on fait avec Thomas, où clairement, on ne travaille pas du tout sur l'incarnation. On travaille très peu sur la notion de personnage. Ponctuellement, on peut esquisser une figure extérieure, mais effectivement, on est dans un rapport où l'acteur est là en tant que lui-même. Là, ils sont là pour raconter la vie de de Clercq. Hein. Ils le disent d'emblée, d'ailleurs. Et donc, ils sont effectivement dans un rapport très direct avec le spectateur. Voilà, je peux, en tant que spectateur, moi, me sentir bien dans des logiques plus dramatiques, où on a un bon gros quatrième mur et où les spectateurs incarnent, mais dans le théâtre qu'on essaye de faire, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on utilise. Voilà.
Est-ce que vous avez travaillé avec Patrick de Clercq sur l'élaboration du spectacle ?
Non, on l'a tenu au courant de nos avancées, au fur et à mesure de celle-ci, on lui a dit qu'on souhaitait l'adapter, il ne s'y est pas opposé, on lui a dit que le spectacle serait programmé au Rideau de Bruxelles, enfin voilà. Il est tout à fait bienveillant à notre égard, mais son boulot c'est son boulot, et le nôtre c'est le nôtre, voilà. Il sera là par contre au Rideau de Bruxelles mercredi prochain,
donc le 14.
Dans une semaine, voilà, pour une rencontre après la représentation. Donc le mercredi au Rideau, les représentations ont lieu à 19h30, donc la rencontre a lieu 2 heures après, à 21h30.
Vous n'aviez pas peur de la longueur de ce spectacle par rapport au public ?
Moi, j'aime pas le formatage, hein, donc la durée objective d'un spectacle, je pense que c'est quelque chose qui est en tant que spectateur, je peux ne pas m'emmerder dans un spectacle de 6 heures. Si je vois les tragédies romaines d'Ivo Vano, ça pourrait encore durer 6 heures de plus. Ça ne m'ennuie absolument pas. Et il arrive que je m'ennuie dans des spectacles d'1h10 et où après 20 minutes, je regarde ma montre. Donc, j'espère que notre spectacle est juste et que son temps correspond à son propos, à sa dynamique. Mais voilà, là, il fait un peu moins de 2 heures, donc c'est pas non plus... C'est le temps d'un bon film, quoi. Il fait 1h50, je pense, le spectacle. L'entrée publique a mis beaucoup de temps hier, donc on a un peu débordé. Voilà, normalement, le temps du récit, c'est 1h50. Ça me paraissait être le temps nécessaire pour ce spectacle-là. Après, c'est vrai que les acteurs, sans trop dévoiler, se livrent quand même à une performance compliquée, qui est là pour métaphoriser la difficulté de l'analyse, le fait que la psychanalyse est un effort sur soi-même aussi, et qu'il s'agit d'accomplir quelque chose qui n'est pas facile à accomplir. Et donc, ça ne pouvait se faire aussi que dans l'expérience de la durée. Pour que la métaphore fonctionne, si on avait fait un spectacle d'1h05, je pense qu'elle aurait fonctionné beaucoup moins. Voilà. Et donc, c'est une durée partagée pour les acteurs et les spectateurs. Voilà, j'espère que c'est pas pénible, mais le temps a un sens dans ce spectacle, la durée a un sens, et... Oui, voilà. Enfin, durée ne veut pas dire ennui.
Tout à fait. En tout cas, pour assembler un tel puzzle, il semble évident que qu'il faut prendre le temps. C'est ça. Il y a beaucoup de pièces dans votre puzzle, Antoine Laubin. Oui. Alors, autre choix musical, je vous repropose Pergunte, hein, dont vous disiez que c'était aussi quelque chose de pertinent. Pergunte, cette personne qui, elle aussi, est en quête de son identité. Ou alors, on revient à James Ensor, qui était non seulement peintre, mais aussi un peu musicien.
Ah, j'ai jamais entendu ce que Ensor...
C'est très léger.
À composer. Bon, on va essayer ça. On va essayer en sort.
Ce cher James Ensor avec au piano, ici Suzanne Deneuve, un extrait de sa gamme d'amour. Je vous avais dit que c'était léger, Antoine Laubin.
J'avoue, j'y ai pas prêté beaucoup d'attention parce que vous m'avez mis deux photos sous les yeux. Et voilà, donc du coup, je suis occupé par le choix que j'ai imposé. J'ai pas bien écouté.
Vous avez encore le temps d'un petit jingle avant de vous décider.
D'accord.
Temps de pause.
Le choix cornélien de la photo dans l'émission. Deux photos devant vous, Antoine Laubin. Est-ce que vous arrivez à choisir?
Je peux pas décrire les deux rapidement?
Oh, si vous voulez, oui.
Alors, j'ai un chien qui regarde l'objectif dans une photo en noir et blanc assez esthétisante, mais assez réussie. Et puis, de l'autre côté, j'ai une photo très curieuse qui semble avoir été prise en Grèce lors d'une fête qui semble avoir lieu dans une station essence. Alors, on a des gens qui dansent, des gens attablés qui boivent et qui fument des cigarettes, mais à côté de pompes à essence, on voit le panneau Shell. Voilà, donc photo très intrigante d'un côté et très belle de l'autre. Enfin, très belles toutes les deux, d'ailleurs.
Donc, sur laquelle voudriez-vous plus d'explications?
Ah, c'est ça, c'est les explications.
Ah, je ne sais pas, c'est une manière de choisir.
Plutôt la pompe à essence grecque, alors.
Eh bien, c'est bien vu. Pompe à essence grecque, ce sont des Grecs qui dansent le sirtaki dans une fête de mariage. On voit la mariée même. Et afin de diminuer les frais de la fête, en ces temps difficiles, particulièrement en Grèce, le marié, qui est pompiste, a décidé donc d'organiser l'événement dans sa station essence. C'est une photo qui a été prise par Nick Hannes jeunesse, photographe anversois à Patras en 2012, une photo qui a fait le tour du monde. Et il faut savoir que Nick Hannes réalise tout un travail sur les pays de la Méditerranée, des photos souvent avec beaucoup d'humour, très pertinentes, qui parlent de migration, de crise économique, de tourisme de masse, d'urbanisation et de beaucoup d'aspects de notre monde contemporain. Ce projet méditerranéen est exposé en ce moment au musée de la photographie d'Anvers jusqu'au 1er février. Antoine Laubin, Démons me turlupinant, texte de Patrick Declercq, c'est à voir au Rideau, rue Goffard à Ixelles jusqu'au 24 janvier. On arrive déjà au bout de cette émission. Il y avait encore plein de choses à dire, mais il faut surtout aller voir ce spectacle dont on n'a pas pu dire grand-chose parce qu'il est très fort basé sur la surprise et sur une dramaturgie qui doit nous saisir. Donc voilà, c'est à voir au Rideau. Et puis vous avez d'autres actualités qui vont suivre au Théâtre de la Vie. Vous allez reprendre un spectacle, mais en version longue, sur un texte de Thomas Depré, qui est votre dramaturge attitré. Il s'agit du réserviste, et là on parle effectivement du monde contemporain, des sans-emploi et de problématiques bien actuelles, je crois.
Oui, c'est un texte de Thomas autour de la problématique du chômage, qui est malheureusement terriblement d'actualité, qu'on reprend au Théâtre de la Vie au mois de février, dans un mois tout pile, du
3 au 14 février. Et puis, à signaler aussi que vous allez travailler sur un texte de Jean-Marie Piennes, scénario. Jean-Marie Piennes, votre maître à penser, je crois, en matière de théâtre.
Et ami,
néanmoins. ça, ce sera en Allemagne, donc aussi une aventure toute particulière. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de voir ce spectacle multilingue en Belgique.
Oui, il sera à Liège la saison suivante.
Très bien. Alors, on prend déjà rendez-vous aussi. Beaucoup de rendez-vous avec vous. Merci beaucoup d'être venu. Alors, vous nous avez proposé une signature musicale qui, sans grande surprise, est la musique du spectacle. Là, on peut tout à fait la dévoiler, cette musique, qui était un des choix de Patrick Declercq dans Le Grand Charivari.
C'est pour ça que c'est en sachant ça que je l'ai choisi, parce que vous êtes présente malgré vous dans le spectacle, parce que c'est la musique que Patrick Declercq avait choisi pour son passage dans le Grand Charivari en mai 2012. Oui. Et c'est à cette occasion que je l'ai découverte, et c'est à cette occasion qu'on a décidé de la choisir pour en faire le thème principal de notre spectacle.
Eh bien, ça nous fait très, très plaisir. Vous avez choisi la version qu'il a justifiée dans l'émission. C'est un extrait d'une cantate de Bach, Ich habe genug, pardon, excusez-moi pour ma prononciation allemande, avec Nathalie Dessay, le concert d'Astrée et Emmanuel Haïm, Ich habe genug, c'est-à-dire j'ai mon content. Ça veut dire beaucoup, évidemment, par rapport à Patrick Declercq.
Oui.
Merci Antoine Laubin.
Merci beaucoup Anne.
Jean-Sébastien Bach, extrait de sa cantate Ich habe genug, cantate BWV 82A, avec Nathalie Dessay, concert d'Astrée et Emmanuel Haïm. C'était la signature sonore d'Antoine Laubin et de Patrick Leclerc, c'est presque une signature à quatre mains. Antoine Laubin, vous êtes toujours avec nous. Et donc on rappelle que ces démons me turlupinant, parus chez Gallimard, sont sur la scène du Rideau à Bruxelles jusqu'au 24 janvier. On rappelle la rencontre avec Patrick de Clercq le 14 janvier, donc mercredi prochain.
C'est ça.
Et puis on rappelle les autres rendez-vous que vous nous fixez, le réserviste au Théâtre de la Vie, et puis scénario de Jean-Marie Piem, ce sera pour plus tard, pour l'année prochaine, à Liège, Antoine Laubin, Jean-Sébastien Bach, je crois que c'est aussi quelque chose qui vous rapproche avec Patrick Leclerc.
Mais grâce à lui, il insiste tellement sur son amour pour Bach que ça fait 3-4 ans que j'essaye de me plonger dedans, et particulièrement pour Démon Monture Lupinant, on en a écouté beaucoup, parce qu'avant de se décider sur la cantate BWV 82, qui est beaucoup utilisée dans le spectacle, on a quand même exploré plein d'autres choses, le piano, tout ça. Donc c'est en grande partie aussi grâce à De Clercq que j'ai été initié à Bach.
Très bien, je vous souhaite encore une longue route avec lui. Et puis on peut dire ici que Patrick De Clercq va bien, parce que dans son livre, il dit qu'il ne va pas très bien. Il avait des problèmes de santé sérieux et là, il est dans une bonne forme.
Il semble en forme, oui.
Bon, longue vie à lui, oui. Et on espère encore d'autres ouvrages.
Oui, il y a des bouquets en préparation qui arrivent. Oui. Notamment apparemment un projet d'haïku.
Ah oui.
Un livre d'haïku.
Ah ben, on imagine des haïkus coup de poing part de Patrick De Clercq. Merci Antoine Laubin, je vous souhaite de passer une belle après-midi à l'écoute de Musique 3. Merci à Manu Wautier pour la mise en onde de ce temps de pause. Dans un instant, le lunch concert sur Musique 3.
Don't stop for lunch. Be ahead of your competitor. The Billows feeding machine will eliminate the lunch hour, increase your production, and decrease your overhead.